Bonsoir à tous. Je voudrais commencer par remercier le comité Biblos d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité et en particulier d'avoir décalé ces cours pour un problème personnel que j'ai eu. Merci vraiment beaucoup et je suis désolé pour tous d'avoir décalé votre soirée Biblos d'une semaine, mais j'en suis très reconnaissant. Je suis aussi impressionné de parler devant mon écran d'ordinateur et de ne pas vous voir, mais je vous sais présent et je vous remercie pour votre zèle pour la parole de Dieu. Je vais partager mon écran et nous allons traiter dans un premier temps le fondement et le contenu de l'Évangile. Donc, la fin de Romains chapitre 3, du verset 21 jusqu'au verset 31, c'est un passage très dense théologiquement. Donc, nous passerons la première moitié de notre soirée sur cela. Et puis, dans un deuxième temps, donc après la pause, sur le chapitre 4. Mais même avant de traiter le chapitre 3, 21 et suivant, je voudrais faire un petit retour en arrière, juste pour rappeler le contexte, parce que l'épître de Paul aux Romains est une construction très très logique. Les pièces s'emboîtent de manière systématique les unes avec les autres, et il nous faut juste nous rappeler le fondement qui a été posé dans les trois premiers chapitres. Il nous a parlé du besoin universel de l'Évangile, du chapitre 1, 18 jusqu'à 3, 20, et on pourrait choisir comme verset clé: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Je pourrais préciser tout de suite que j'emploie ici la traduction seconde 21 pendant toute la soirée. Donc, la colère de Dieu dans les premiers chapitres, et ça, on pourrait diviser en trois parties. D'abord, la colère de Dieu qui se dirige contre les non-juifs, ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu et qui se trouvent quand même justement condamnés par Dieu parce qu'ils ont refusé la révélation de Dieu dans la création. Ensuite, dans le chapitre 2, il change son fusil d'épaule, il s'adresse à ceux qui sont plutôt croyants, les juifs de son époque, mais il établit que les juifs sont eux aussi justement condamnés par Dieu, pas parce qu'ils ont refusé la révélation de Dieu dans la création, mais parce que ils n'ont pas obéi à la loi qu'ils avaient reçue. Donc, le chapitre 1, c'est plutôt l'idolâtrie qui est condamnée. Dans le chapitre 2, c'est plutôt l'hypocrisie religieuse qui est condamnée. Et puis, dans le début du chapitre 3, les 20 premiers versets, il va revenir sur la culpabilité de tous les êtres humains, qu'ils soient non-juifs ou juifs, avec un peu comme conclusion ce verset 19, où il dit: afin que toute bouche soit fermée. Donc, quand on arrive dans Romains 3, 19, on voit toute l'humanité devant Dieu, le jour du jugement, la tête baissée, le bec cloué, comme on dit, parce que personne ne peut se justifier devant Dieu. Mais on peut se poser cette question: pourquoi est-ce que l'apôtre Paul commence son évangile ou son développement de l'évangile par trois chapitres si noirs, si négatifs? Si on n'avait que Romains chapitre 1, 2 et 3 jusqu'au verset 19, il y aurait de quoi déprimer ou se suicider. Avoir peur en tout cas, parce que ça ne parle que de jugement. Ça ne parle que du péché de l'homme et de la condamnation universelle des êtres humains. Alors, vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi est-ce qu'il commence son livre ainsi? Je vous laisse réfléchir quelques secondes et puis je vous propose quelques réponses à cette question. Moi, je dirais d'abord ceci. Paul commence l'épître aux Romains de façon si négative en annonçant cette mauvaise nouvelle, parce que sans la mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle. Il faut annoncer la mauvaise nouvelle pour que les gens aient envie d'entendre la bonne nouvelle. Je vous donne une illustration. Je ne suis pas un grand théologien, j'espère ne pas vous décevoir. Je ne suis pas un grand théologien. Je suis plutôt un enseignant de la parole de Dieu, un pasteur, et j'aime beaucoup les illustrations. Donc, je vous propose celle-ci. Allez dans la rue, arrêtez la première personne qui passe, prenez cette personne par l'épaule, par les épaules, et dites-leur, ça y est, vous êtes gracié, bonne nouvelle, vous êtes gracié. Cette personne va vous regarder un peu bizarrement. Elle ne va pas comprendre, elle ne va pas se réjouir, elle ne captera pas la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas d'abord entendu la mauvaise nouvelle. Alors, excusez-moi, la bonne nouvelle ne peut venir qu'après la mauvaise nouvelle. Donc, je vous propose une deuxième expérience. Vous allez dans un pays où les gens peuvent être condamnés à mort. Vous allez dans le couloir de la mort, là où des prisonniers attendent d'un jour à l'autre leur exécution. Et puis vous annoncez à un de ces prisonniers, ça y est, vous êtes gracié. Vous êtes gracié, vous êtes pardonné, vous êtes libre. Là, il s'agit d'une bonne nouvelle qui va être très très bien accueillie parce que la personne était convaincue de la mauvaise nouvelle d'abord. C'est pour cela que, entre autres, que l'apôtre Paul commence son épître ainsi. Mais il y a une deuxième lettre qui est plus en rapport avec la rédaction de l'épître et du but de l'épître. J'aime bien dire que l'épître aux Romains est une lettre missionnaire. Elle est une lettre missionnaire destinée à une église, l'église à Rome, et son but est de motiver l'église de Rome pour participer à un projet missionnaire. L'apôtre Paul a un projet missionnaire pour aller annoncer l'évangile en Espagne, là où le nom de Jésus n'a jamais été annoncé. Et pour que l'Église de Rome soit motivée pour partir avec lui, il faut que les chrétiens de Rome soient convaincus que les Espagnols soient perdus. Alors, on perçoit ce but missionnaire dans le chapitre 15, vers la fin de l'épître. Versets 23 et 24, où il leur explique: J'ai le vif désir de vous rendre visite. Je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas. En fait, l'apôtre Paul, par cette lettre, essaie de motiver l'Église de Rome pour participer à un projet missionnaire. Il demande leur aide. Cette aide pourrait être des prières, cette aide pourrait être des finances, cette aide pourrait être des équipiers. On sait que l'apôtre Paul ne se lançait pas dans une mission sans des équipiers. Alors pour illustrer ça, j'ai mis ici une carte de l'Empire romain au 1er siècle, tout à droite, là, dans le nord de la Syrie. Vous voyez la ville d'Antioche que j'ai encerclée avec un petit cercle vert, c'est, on peut dire, l'église d'envoi de l'apôtre Paul. C'est à partir de cette ville que, à trois reprises, il fait des voyages missionnaires, d'abord en Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie, ensuite en Grèce, et une troisième fois aussi en Grèce. Mais maintenant qu'il a annoncé l'évangile dans ces contrées, dans ces régions, il a un nouveau projet qui est d'annoncer l'évangile en Espagne. Alors je vous laisse apprécier la distance qui sépare Antioche de l'Espagne. Avec les moyens de transport qu'il y avait à l'époque, avec les moyens de communication qu'il y avait à l'époque. Je crois que l'apôtre Paul se dit que sa base à Antioche est trop éloignée de l'Espagne. Mais il se dit que s'il peut se rendre à Rome, il a envie d'aller à Rome et de rencontrer cette église qu'il n'a pas lui-même implantée, que des personnes de cette église pourraient l'accompagner jusqu'en Espagne. L'Espagne, c'était le Far West de l'Empire romain à l'époque. Et l'apôtre Paul a très envie d'annoncer l'évangile là-bas. Alors, pour être certain que l'Église de Rome soit motivée, pour être certain qu'il soit sur la même longueur d'onde que lui, il leur expose son évangile. En effet, si vous, je prends une illustration, on va dire que vous voulez former des sauveteurs en mer ou des sauveteurs, des surveillants de baignade pour les plages de la France en été. Il vous faut convaincre des gens de suivre cette formation. Vous pourriez commencer par dire, par exemple, il y a 1600 personnes qui se noient chaque été en France. Est-ce que vous le saviez, ça? C'est beaucoup. Cette statistique va motiver les gens pour se former, pour être surveillants de baignade. De la même manière, l'apôtre Paul veut former les Romains pour être sauveteurs, pour l'accompagner sur cette mission. C'est pourquoi il doit leur donner des statistiques. C'est une statistique importante. Tous les êtres humains sont condamnés sans l'évangile, qu'ils soient non-juifs, païens, ou qu'ils soient juifs. Quelles implications de cette petite introduction voyez-vous pour l'évangélisation et pour la vie chrétienne? On parle des implications pour la mission des premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Et la première implication, c'est tout simple, la mission est nécessaire et vitale. Et c'est vraiment quelque chose dont nous avons tous besoin d'être convaincus aujourd'hui et dont nous avons besoin de convaincre les membres de notre Église, parce que l'air du temps, c'est de dire que chacun sa route, chacun son chemin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de déranger les gens de l'autre côté de la planète parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? L'apôtre Paul dirait oui, il y a besoin. Il faut relire les trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Deuxième implication, cette mission est universelle aussi bien pour les Juifs que pour les Grecs, pour les savants que pour les ignorants, pour les religieux que pour les athées, tous sont condamnés sans accepter l'évangile de Jésus-Christ. Une autre implication que je me fais, c'est que l'annonce du jugement de Dieu est nécessaire. On peut se poser la question, si nous n'avons pas annoncé le jugement à venir, est-ce que nous avons vraiment annoncé l'évangile? Si nous avons annoncer que l'amour de Dieu sans annoncer la justice de Dieu. Est-ce que nous avons vraiment annoncé l'évangile? Je pense que l'apôtre Paul dirait non. Il commence par annoncer le jugement de Dieu, ensuite il annonce l'amour de Dieu. Alors une quatrième petite application. Notre approche, quand nous partageons l'Évangile, peut varier selon la culture de ceux qui nous écoutent. Par exemple, l'apôtre Paul, au chapitre 1, il parle aux non-juifs, il leur parle de la création et non pas la loi comme révélation de Dieu. Au chapitre 2, aux juifs, il leur parlera de la loi et leur non-mise en pratique de la loi. Alors nous arrivons maintenant au texte que nous devons étudier ce soir, qui commence par ces paroles, mais maintenant. Et j'entends presque les premiers lecteurs de l'Épître aux Romains pousser un grand ouf quand ils lisent ces deux mots, mais maintenant. Parce que les premiers chapitres sont tellement durs qu'ils aspirent vraiment maintenant à entendre la bonne nouvelle. Et j'espère que ce soir, vous voulez aussi entendre la bonne nouvelle. Dans les trois premiers chapitres, on peut imaginer une route qu'on va appeler la voie des œuvres, la voie d'une auto-justification, où on cherche à être juste devant Dieu. Et dans ces premiers chapitres, l'apôtre Paul dresse un grand panneau, route barrée. Non, vous ne pouvez pas avancer. Mais à partir du verset 21 du chapitre 3, il dirait, mais maintenant, il y a une route ouverte, il y a une voie, il y a un passage, un chemin, la porte est ouverte, ce n'est pas la voie des œuvres, mais la voie de la grâce de Dieu, la voie de la foi, la justification par la foi. Il nous faut maintenant exposer et comprendre ces versets. Donc nous lisons chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Paul se sent dans l'obligation de rajouter cette petite phrase dont témoignent la loi et les prophètes. Il aurait pu écrire, mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée indépendamment de la loi. Mais cette petite phrase, indépendamment de la loi, certains lecteurs, peut-être juifs, pourraient déjà être choqués, pourraient déjà se dire, mais la loi est importante, tu jettes comme ça la loi. Donc Paul veut leur dire en premier que la loi elle-même, les prophètes eux-mêmes, témoignent de la justification par la foi. En fait, Paul a été, je pense, souvent accusé par certains d'avoir inventé une nouvelle religion. On peut entendre ça encore aujourd'hui. Mais lui, il est certain du contraire. Ce qu'il prêche, ce qu'il annonce, vient des prophètes, vient de la loi, et il va nous le montrer au chapitre 4. Donc, ce qu'il dit maintenant sort de la loi de Dieu et des prophètes. Il n'invente pas une nouvelle religion, il expose quelque chose qui a déjà été enseigné par Moïse. Ces prochains versets, j'ai donné un titre. J'ai appelé ça le noyau dur de l'Évangile. Le noyau dur parce qu'il y a vraiment ici un concentré du message évangélique. Et je pense personnellement que c'est le concentré le plus fort de toute la Bible. Il me semble que nulle part ailleurs dans toutes les Écritures, vous trouverez l'Évangile aussi clairement exposé que dans ces quatre versets. C'est pourquoi on va s'atteler à les comprendre, parce que si vous comprenez ces versets-là, vous comprenez l'Évangile. Et si vous pouvez expliquer ces versets-là, vous pouvez expliquer l'Évangile. Et on va imaginer justement qu'on veut expliquer ce texte à un jeune. On va dire un collégien. En France, un collégien a entre 11 et 14 ans. Donc, on va prendre un garçon, une fille de 13 ans, par exemple. Comment est-ce qu'on leur expliquerait ce texte? Parce que si on peut l'expliquer simplement, c'est déjà bon pour nous, pour moi et pour tous. Je lis d'abord. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Quels sont les mots dans ce texte qu'il nous faudra expliquer à notre jeune homme? Je pense qu'il faudrait d'abord expliquer pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de différence. Il veut dire ici qu'il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs. C'est tout le contexte des trois premiers chapitres. Et en effet, pas de différence entre tous les hommes. Vous pouvez prendre la plus gentille des personnes, le plus méchant des criminels. Il n'y a pas de différence entre ces deux personnes devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être qu'il nous faudra aussi expliquer le mot péché. Il ne faut pas présumer que les gens comprennent bien ce que veut dire péché. Ce n'est pas un mot qu'on emploie. J'ai employé ce mot il n'y a pas si longtemps et quelqu'un qui ne connaît pas bien la Bible m'a dit, alors tu parles des crimes. Et j'ai dit, des crimes, oui, les crimes sont des péchés, mais c'est beaucoup plus large que ça. Le péché n'est pas que des crimes. Ou bien les gens vont employer le péché pour parler de péché mignon, donc de péché pas grave à leurs yeux. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du péché? Moi, j'aime prendre six phrases pour expliquer le péché. Le péché, c'est ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. D'accord? C'est ce qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû dire. Jusque-là, ça va à peu près. Le péché aussi, c'est ce qu'on a pensé qu'on n'aurait pas dû penser. Alors là, parfois, les gens m'arrêtent en disant, mais là, tu vas un peu loin. Mais c'est quand même ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne, que même celui qui regarde, qui convoite, a déjà commis un adultère dans son cœur. Et je dis aux gens, je vous propose de vous soumettre à une expérience. On va attacher des électrodes à votre cerveau et par ces électrodes, on va transmettre ce que vous pensez et le projeter sur un très grand écran qui sera derrière votre tête pour que tout le monde puisse voir toutes les pensées qui vous passent par la tête. Vos pensées concernant votre patron, les pensées concernant votre voisin, les pensées concernant peut-être même parfois votre conjoint, etc. Personne ne veut se soumettre à cette épreuve parce que nous savons tous que nos pensées peuvent être très mauvaises, très noires. Mais le péché, c'est plus que ça encore, c'est ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. C'est ce qu'on pourrait appeler le péché par omission. Nous devrions faire le bien, nous devrions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand nous ne le faisons pas, nous péchons. Le péché, c'est ce qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire, et ce qu'on n'a pas pensé et qu'on aurait dû penser. Je prends ce petit temps pour souligner que le péché est très vaste, pour nous aider à comprendre que nous sommes tous pécheurs. Dans le chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul avait dit que Dieu est en colère contre toute impiété et contre toute injustice. Il me semble qu'il crée ici deux catégories de péchés aussi. La première catégorie, toute impiété, on va appeler ça une catégorie verticale. C'est-à-dire, la piété, c'est la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Donc, l'impiété, c'est l'absence de la crainte de Dieu, l'absence de l'amour pour Dieu. Or, les deux plus grands commandements, selon Jésus, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Donc, tout ce qui est dans notre vie, qui ne prend pas sa source dans l'amour pour Dieu, dans la crainte de Dieu, est déjà péché. Et puis, le péché que je vais appeler horizontal vis-à-vis de notre prochain, l'injustice. La deuxième moitié de ce commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qui ne correspond pas à l'amour de notre prochain est aussi péché. Je pense que c'est important d'établir ce qu'est le péché avant d'aller plus loin dans ce texte. Verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Certainement qu'il nous faudra expliquer ces mots à notre jeune homme ou à notre voisin ou à notre collègue de travail. On ne parle pas de la gloire de Dieu à la machine à café au travail. C'est des mots, des vocabulaires qui sont pratiquement perdus en Occident en tout cas. Qu'est-ce qu'il entend par cela, privé de la gloire de Dieu? J'aime bien ces deux illustrations. La gloire est à Dieu ce que la lumière est à une ampoule. Ou bien, la gloire est à Dieu ce que le chauffage est à un radiateur. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de Dieu. Le rayonnement de qui il est, de toutes ses qualités, soit amour, miséricorde, justice, patience, etc. Le rayonnement de ses qualités. Donc être privé de la gloire de Dieu, c'est un peu comme avoir une ampoule, mais ne pas pouvoir profiter de la lumière que donne cette ampoule, ou avoir un radiateur, ne pas pouvoir profiter de la chaleur qui donne ce radiateur. Aujourd'hui, le monde est au bénéfice de ce qu'on appelle la grâce commune. Qu'est-ce que la grâce commune? La grâce commune, c'est le soleil qui se lève, c'est la pluie qui tombe, c'est une certaine sagesse humaine qui nous est donnée parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est nos gouvernements et notre système de santé. C'est la grâce commune. Mais être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de toute relation avec Dieu et un jour, ultimement, être privé même aussi de la grâce commune, c'est-à-dire l'enfer. L'enfer, ce sera l'absence de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est toutes les bonnes choses qui émanent de la bonté de Dieu. Tout don parfait descend d'en haut, vient de Dieu. Le jour où Dieu coupera tout cela pour ceux qui ne sont pas sauvés, ils seront privés de toutes ces bonnes choses et dans la souffrance loin de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Donc, on parle ici de justification. On va avoir trois mots très théologiques, coup sur coup. Justification, ensuite rédemption, ensuite expiation ou propitiation. Nous parlerons de ces trois mots. Commençons par la justification. La justification, c'est être déclaré juste, être acquitté. Ça vient du palais de justice. Donc, on peut imaginer un palais de justice. On imagine quelqu'un qui est amené en justice. Les avocats ont donné leurs arguments. Le procureur a mis en avance des preuves irréfutables de sa culpabilité. Cet accusé attend la sentence du juge. Il baisse la tête. Il a peur de ce qu'il va dire parce qu'il sait qu'il est coupable. Et puis d'un coup, il entend le mot acquitté, acquitté. Voilà ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Dieu justifie l'impie. Dieu acquitte le pécheur. Et on peut tout de suite dire, mais comment Dieu peut-il acquitter un pécheur? Ben, l'apôtre Paul s'empresse de nous dire comment. Par le moyen de la libération. Alors, dans d'autres traductions, on a par le moyen de la rédemption. Donc, on a ce deuxième mot, la rédemption, la libération, qu'on peut aussi appeler le rachat, qui vient de notre domaine. Nous ne sommes plus au palais de justice, nous sommes au marché des esclaves. Alors, l'archétype de la rédemption dans la Bible, c'est l'Exode. Voilà un peuple, le peuple d'Israël, qui est esclave, qui est sans force, qui est maltraité, qui est privé de nourriture et de liberté, qui n'a aucun moyen pour se libérer. Ils sont prisonniers, faibles. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, va intervenir pour les libérer en leur envoyant Moïse, en envoyant contre l'Égypte les plaies, et en particulier la dernière plaie, dont il libérera, dont il sauvera les Israélites par l'agneau sacrifié, leur rédemption va se faire au prix du sang d'un agneau. Ainsi, nous sommes libérés par un autre prix, le prix du sang de Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Voilà notre troisième mot très théologique. Expiation, propitiation. Le sens ici est que le sacrifice de Christ va détourner la colère de Dieu de nous. Plutôt, son sacrifice va satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Nous ne sommes plus ici au palais de justice, ni sur le marché des esclaves, mais nous sommes au temple où, une fois par an, le souverain grand prêtre rentrait et déposait, répandait sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, qu'on appelait le propitiatoire, du sang pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Ce sang avait comme but de satisfaire les exigences de la justice de Dieu ou bien de rendre Dieu propice, c'est-à-dire de rendre Dieu favorable à notre égard. On emploie le mot expiation quand même encore un petit peu aujourd'hui. Si quelqu'un est condamné à une peine de prison, on va dire une personne est condamnée à passer 5 ans en prison, et supposons qu'il fait tous ces 5 ans, il a expié sa peine, c'est-à-dire qu'il a satisfait les exigences de la justice à son égard. La justice ne lui reproche plus rien. De la même manière, c'est Christ qui va satisfaire l'exigence de la justice de Dieu pour nous, à notre place. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Je crois qu'on va pousser jusqu'à 9 h à peu près ou 9 h 02 pour faire une petite pause et avoir un temps de questions. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Le mot grâce, malheureusement aussi, n'est pas bien compris par nos contemporains. La grâce, c'est ce qui est donné gratuitement. D'ailleurs, ici, on a une espèce de pléonasme puisqu'il dit gratuitement déclaré juste par sa grâce. C'est-à-dire que nous ne sommes pas déclarés justes parce que nous agissons bien, parce que nous sommes des gens de bien, mais parce que Dieu a pitié de nous. Alors, on a l'exemple de la grâce présidentielle en France, en tout cas. C'est peu utilisé, mais je me rappelle que Jacques Chirac accordé une fois une grâce présidentielle à un criminel qui était condamné pour un meurtre. Et il lui a fait une grâce présidentielle, c'est-à-dire qu'il l'a libéré. Dieu nous libère par sa grâce gratuitement. Il y a un autre ingrédient dans notre formule, dans notre équation. C'est la justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient, pour ceux qui croient, la foi. Malheureusement, même la foi, il faudra définir pour nos amis. La foi n'est pas simplement de croire. Je vous donne une illustration. Je peux dire que je crois au parachutisme. Je l'ai vu faire, je l'ai vu à la télé, même en vrai, ça m'est arrivé d'être près d'une base aérienne et de voir des gens descendre d'un avion en parachute. Donc je peux dire que je crois au parachutisme. Par contre, il y a une différence entre cette croyance-là, plutôt intellectuelle, peu coûteuse, et de monter dans un avion avec un parachute sur le dos. D'avoir quelqu'un ouvrir la porte de l'avion devant moi et faire 3, 2, 1, sauter. Là, on va voir si je crois vraiment au parachutisme. Ainsi, dans la Bible, la foi est toujours quelque chose qui nous engage. La foi nous pousse à nous faire confiance à Dieu et à sa parole. Donc, quand on dit qu'on a la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que toute notre vie, nous sommes prêts à parier sur l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Je vérifie juste mes petites bon. Il nous reste une autre question à traiter dans ces quelques versets. Je les lis. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que cette époque de patience dont l'apôtre Paul parle ici? Il s'agit en fait de l'époque avant la croix de Jésus. Nous avons les croyants de l'Ancien Testament. Nous apprendrons dans le chapitre suivant, chapitre 4, que ces croyants de l'Ancien Testament ont eux aussi été justifiés par la foi et non par leurs œuvres. Or, on ne comprenait pas ou on ne voyait pas à cette époque comment Dieu les justifiait, parce que la croix n'était pas encore bien révélée. C'était l'époque de la patience. Ce n'est pas que Dieu attendait pour pardonner, il avait déjà pardonné, mais il attendait pour montrer comment il allait pardonner, sur quelle base il allait pardonner. Donc nous parlons en fait de la rétroactivité de la croix. On voit ça aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 15, que je vous lis. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. On voit ici donc très clairement que les transgressions de ceux de la première alliance, de ce que nous appelons parfois l'Ancien Testament, ont été pardonnés par le sang de Christ de manière rétroactive. Quel aspect du caractère de Dieu devrions-nous remarquer à la croix? Si je vous pose cette question, vous serez peut-être tenté de répondre tout de suite, ah ben on voit l'amour de Dieu à la croix. Vous avez raison, on voit l'amour de Dieu à la croix. Mais ce n'est pas cela que l'apôtre Paul met en avant ici. Avez-vous bien lu le texte? Il dit, il, donc Dieu, démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. À l'époque de sa patience, il la démontre, il démontre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Donc on voit par trois reprises dans ce texte que à la croix, Dieu est en train de nous montrer non seulement son amour, mais peut-être premièrement sa justice. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Pour nous pardonner, Dieu n'a pas simplement effacé un tableau, agité une baguette magique. Dieu a fait justice. Dieu a fait justice en proposant son Fils comme une victime expiatoire pour nous. Je crois que nous allons marquer une petite pause ici et si je ne me trompe pas, il peut y avoir des questions.
Voilà, j'ai quelques petits soucis techniques effectivement, donc on fera sans vidéo, je m'en excuse, Brad.
Ce n'est pas grave.
Ici, il y a une question sur une définition de terme. Quelle est la différence entre expiatoire et propitiatoire?
Oui, alors la question est très bonne parce que selon les traductions, on va trouver l'un ou l'autre de ces mots. Dans la traduction seconde, par exemple, on va trouver propitiatoire ou propitiation. Et dans des traductions un peu plus récentes, le plus souvent, on va trouver expiatoire. Alors, j'ai peur de décevoir, peut-être, je n'arrive pas à perdre trop de sommeil sur cette question. Il faut savoir d'abord que ça nous renvoie à cette préfiguration dans l'Ancien Testament, dans le Temple, sur ce qu'on appelle le propitiatoire, le couvercle de l'Arche de l'Alliance, où ce sacrifice était fait le jour du grand pardon, Yom Kippour, une fois dans l'année, pour le pardon de tous les péchés du peuple de toute l'année. Donc, propitiatoire, c'est une très bonne traduction. Seulement pour nos contemporains, le sens est un peu perdu aujourd'hui, surtout qu'ils ont peu de connaissances bibliques de cette préfiguration. Donc le mot sacrifice expiatoire ne me gêne pas, vu que on touche quand même vraiment au sens aussi, expier la peine, satisfaire la justice de Dieu, détourner la colère de Dieu. Alors, ce n'est pas une réponse très technique, mais c'est celle que je peux donner ce soir.
Merci beaucoup Brad. Et puis on va prendre une deuxième question, après on va vous laisser partir en pause. Cette deuxième question, c'est celle-ci. Souvent je me trouve confronté, c'est aussi une forme de témoignage, à cette difficulté où les gens ne comprennent pas comment le sacrifice d'une personne tierce peut effacer les péchés d'une autre personne.
Oui, c'est une excellente question. La semaine dernière, je faisais une étude biblique découverte avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'évangile. Et quand j'ai annoncé ce principe, une des dames a dit tout de suite, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Et c'est vrai que dans un sens, ce n'est pas juste. Mais la réponse que je lui ai donnée était celle-ci. Si un enfant fait une bêtise, on va dire qu'il casse la vitre du voisin en jouant au ballon, quelqu'un va devoir payer cette vitre. Or, l'enfant n'est pas capable de payer la vitre cassée. Donc, c'est le parent qui va se substituer, en quelque sorte, pour l'enfant et qui va payer la vitre cassée. De la même manière, Dieu nous voyait incapables de nous justifier. Dieu nous voyait incapables de vivre la vie juste que la loi exige. Dieu nous voyait désespérément perdus, captifs du péché. Et donc, il a décidé lui-même de payer ce que nous ne pouvions pas payer. Donc, est-ce que c'est juste? Oui, ça satisfait la justice de Dieu parce que c'est lui qui définit ce qu'est la justice. En tout cas, c'est merveilleux et on rend gloire à Dieu pour cela.
Merci pour cette réponse et pour ce dernier mot de conclusion de cette partie-là. À bientôt.